Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Bonjour Sabrina Nadjar.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef adjointe à Femmes Actuelles, on vous retrouve en fin d'émission. Quel est le thème de votre papier tout à l'heure ?
Eh bien, nous allons parler d'infidélité au féminin. Il faut savoir qu'un tiers des Françaises ont déjà trompé leur conjoint.
Un sujet qui vous est évidemment totalement étranger, Sabrina. Bah,
totalement, vous voulez me faire avoir des problèmes ou quoi ?
Je regrette qu'il n'y ait pas assez de 4G dans le métro. Ça manque vraiment. C'est pour ça que j'essaie maintenant de venir au travail à pied. Pour passer mes appels, pour envoyer mes textos, pour regarder mes applis.
Comment se déconnecter du boulot dans sa vie personnelle ? C'est notre thème ce matin. Depuis le 1er janvier, dans les entreprises de plus de 50 salariés, nous avons tous droit à la déconnexion hors temps de travail. Et c'est une première mondiale. Nous verrons tout à l'heure comment cette loi est mise en œuvre dans les entreprises. Quelles sanctions prévoit la loi si votre patron se montre un peu trop pressant en vous envoyant sans arrêt des mails ou des SMS jusqu'à tard le soir ? Mais comment vraiment se déconnecter une fois arrivé à la maison, quand la connectivité est presque devenue un sixième sens, selon l'une de nos invitées? Comment éviter que la vie professionnelle s'invite à la maison? Comment oublier pendant quelques heures ce fil numérique accroché à nos pattes? Comment mettre en œuvre une détox digitale? Et vous, comment faites-vous pour couper le cordon une fois arrivé à la maison? Avez-vous déjà payé, par exemple, le fait de vous déconnecter du travail? Nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000, par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Je surfe, je partage, je chatte, je télécharge. Je suis poursuivi, assailli, bombardé par le numérique. Souvent j'y pense, comment je faisais avant ?
Accepter de se déconnecter, c'est accepter, quelque part symboliquement, de mourir, mais surtout que le monde continue à tourner sans nous.
Alors voilà, moi j'ai décidé de faire une digital détox, de me déconnecter totalement d'Internet pendant 90 jours. En tout cas, moi, je veux essayer.
Un extrait du documentaire Digital Detox de Pierre-Olivier Labbé en 2015. Pierre-Olivier Labbé qui avait tenu 90 jours sans être connecté. Bonjour Maître Patrick Thiébard.
Bonjour Ali.
Bienvenue, vous êtes avocat, spécialiste en droit social au cabinet Jeantet à Paris. Pouvez-vous nous expliquer ce que contient l'article 55 de la loi travail dite El Khomri, adoptée l'été dernier et qui marque l'avènement d'un droit à la déconnexion, une première mondiale me semble-t-il.
Première mondiale absolument, la France est le premier pays à avoir une loi sur la déconnexion. Alors cette loi, finalement, c'est un peu le règne de la soft law, c'est-à-dire qu'elle
donne, veut dire quoi, soft
elle law donne des indications, elle vous dit, chef d'entreprise, vous avez l'obligation à partir du 1er janvier de négocier avec vos représentants du personnel et vos syndicats un accord sur le droit à la déconnexion, mais elle ne rentre pas dans le détail et, on le verra après, elle ne prévoit pas davantage de sanctions. C'est la soft law.
Alors grosso modo, votre patron ne peut plus vous enquiquiner en vous envoyant des mails et des SMS une fois que votre service est terminé, tard le soir ou le week-end, si vous êtes en congé ?
Alors vous savez, Ali, que c'était déjà le cas avant la loi, puisque le droit au repos, c'est comme un droit constitutionnel. Et que la Cour de cassation a depuis longtemps jugé que le salarié ne pouvait pas être sanctionné parce qu'il n'avait pas rempli un email ou il n'avait pas répondu à un appel. Donc ça existait déjà avant.
Mais qu'apporte la loi en l'espèce ?
Bah, elle va finalement, elle nous amène à quoi ? À un constat d'échec, finalement. Puisqu'avant, on avait déjà une réglementation, si je puis dire, on avait la Constitution, le droit au repos, 11 heures par jour, 35 heures hebdomadaires, je le rappelle, mais finalement, pas respecté, parce que finalement, les petits outils, les petits smartphones qu'on a tous, ils n'existaient pas à l'époque. Bon, donc le constat, le législateur a dit, plutôt que de sanctionner, on va plutôt chercher à amener un changement d'habitude. Changement d'habitude pour redonner du sens au travail. C'est ça ce que veut la loi. Et donc, effectivement, vous voyez encore Ali, on est bien sous le règne de la soft law.
Maître Thiébard, qui est concerné ? Les entreprises de plus de 50 salariés ?
Oui.
Qui sont tenues d'ouvrir des négociations ?
Elles le sont. Elles doivent. Alors, bien évidemment, quand il n'y a pas de syndicat dans ces entreprises, eh bien, il faut passer par la voie unilatérale, hein, c'est-à-dire la charte. Mais pareil, il n'y a pas de, précision. C'est à l'employeur d'édicter sa charte et on verra, je suppose, dans le cours de l'émission, comment on fait.
Et dans les PME et les très petites entreprises, cette nouvelle loi s'applique ?
Alors, elle va s'appliquer indirectement. C'est-à-dire que toutes les fois que vous avez des salariés qui sont soumis à un accord de forfait jour, Eh bien, la loi, elle commande, la loi travail, oblige maintenant, dans les forfaits jours, à ce qu'on prévoit justement un dispositif sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais voyez-vous, d'entreprises de moins de 50, seule une certaine catégorie de salariés se verra appliquer la loi, finalement.
Maître Thiébart, vous qui êtes un avocat spécialisé en droit social suroccupé, est-ce que vous arrivez à vous déconnecter ?
Alors, moi, j'essaye, et surtout, j'essaie d'éviter d'inonder mes collaborateurs d'emails. Et vous savez, il y a une petite fonction qui est quand même pas mal, hein, qui s'appelle, effectivement, vous savez, vous avez la possibilité de différer l'envoi des courriers électroniques. On n'y pense jamais. Avant d'envoyer un email, on doit se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'envoyer ? On est aujourd'hui dans la culture de l'immédiateté, de l'urgence. C'est un peu ça le problème de notre société aujourd'hui.
Bonjour Catherine Lejal.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes ingénieure télécom, docteur en sociologie, spécialiste du digital et des nouvelles technologies. Et vous avez publié chez Erol, J'arrête d'être hyper connecté, réussissez votre détox digital, 21 un jour pour changer, tout un programme. Quel est votre sentiment sur cette nouvelle loi ? Je rappelle que vous menez des recherches sur le sujet depuis une bonne dizaine d'années.
Tout à fait, avec un comparatif France-États-Unis où il n'y a pas de loi, mais il y a moins la culture présentielle, donc l'obligation d'être présent. Ce qui fait que il y a de toute façon déjà plus de flexibilité dans l'organisation. Les gens peuvent aller en salle de sport à 5h du matin, venir travailler directement et repartir à 3h de l'après-midi. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Maître Thiébart, c'est qu'il faut maintenant changer les attitudes, changer le regard que les gens portent sur l'hyperconnexion. Parce que avec les smartphones aujourd'hui, surtout avec l'email sur le smartphone, on est arrivé à une situation qui ne profite ni aux salariés, ni à l'employeur.
Comment faire entrer cette loi dans les mœurs quand la connectivité est devenue un sixième sens, selon vous ?
Vous avez tout à fait raison de le dire, les salariés ne sont pas forcément demandeurs. Le salarié se sent finalement court-circuité et au contraire, avoir 300 mails par jour, c'est entrer dans une catégorie de gens qui sont sans doute importants puisqu'ils sont à la croisée des chemins. Donc il y a cette ambiguïté du salarié qui dit non, j'ai pas envie de me déconnecter parce que regardez comme je suis important.
Nous verrons tout à l'heure avec vous, Catherine Lejal, comment suivre une cure de déconnexion. Bonjour Quentin Périnal.
Et bonjour Ali.
Bienvenue, vous êtes journaliste et chroniqueur au Figaro, spécialiste des questions de société et de vie quotidienne. Tous les lundis sur lefigaro.fr, on retrouve votre chronique Le Bureologue, très instructive. Est-ce que ce droit à la déconnexion va selon vous créer davantage de stress au travail ?
Je pense que oui, parce que comme le soulignait justement Catherine il y a quelques secondes, la question aussi qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens veulent se déconnecter avec tous ces outils, etc., ce désir effectivement. Est-ce que quelqu'un qui reçoit 300 mails par jour est quelqu'un de plus important ? Peut-être, parce que être occupé et se montrer occupé, c'est quelque chose de très tendance, et que ça va avec effectivement l'ère de l'immédiateté, le présentéisme, etc., etc.
Quel est le principal écueil de cette loi, selon vous ?
Le principal écueil, c'est que on essaie d'imposer quelque chose. En fait, on fait une loi générique pour tout le monde, mais on encourage les gens à faire des cas par cas pour chaque entreprise. Donc c'est un peu une contradiction quelque part.
Patrick Thiébart.
C'est la tendance. C'est comme la loi travail. Je rappelle que la loi travail, par définition, elle nous dit les accords d'entreprise doivent maintenant prendre le pas sur les accords de branche. Le patronat a voulu effectivement ce point. On a maintenant la possibilité de négocier entreprise par entreprise. C'est bien. Et vous savez, je veux dire quelque chose, Ali. Une entreprise de 50 salariés, où la moyenne d'âge est de 45 ans, qui travaille qu'au niveau français, et une entreprise dans la même activité, 500 salariés, moyenne d'âge 32 ans, qui travaille international. Est-ce que vous pensez que le profil est le même ? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir avoir le même accord sur le droit des connexions ? La réponse est bien sûr non.
Catherine Lejal.
Tout à fait, et comme le disait Maître Thiébart, les gens maintenant commencent à utiliser la fonction brouillon, en disant « puisque j'ai pas le droit d'envoyer, mais à 8h05, j'appuierai sur le bouton ».
Oui, quand t'as
et d'ailleurs, dans une certaine extrême, certains, pour montrer qu'ils sont toujours occupés, toujours connectés, n'hésitent pas à programmer des mails à 2h. Je pense notamment aux personnes qui travaillent dans le conseil ou des métiers où on travaille beaucoup, on fait des horaires à rallonge, pour montrer qu'on est toujours là, toujours debout. Et on n'hésite pas à programmer des mails à 1h du matin, 1h50, ou alors très tôt le matin.
Sabrina Nadjar, femme actuelle, vous arrivez, vous, à vous déconnecter ?
Alors je m'oblige, c'est-à-dire qu'à partir de 10h du soir, je mets mon téléphone sur veille, et comme ça c'est terminé jusqu'au lendemain matin et je le rallume à 8h.
10h le soir quand même.
Et
si vous ratez quelque chose d'important ?
Entre 10h et 8h du matin, je pense que oui. Bah, sinon, je suis connectée par d'autres moyens à l'actualité.
Et puis, nous souhaitons un bon rétablissement à notre camarade Christophe André, que nous retrouverons mardi prochain. Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Théo Denmat et c'est réalisé par Jérôme Boulet.
Sublime silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. Mes silences autour de toi, tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches où fuit Paris.
Julien Doré, sublime et silence.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h21 et on se demande comment se déconnecter du boulot dans sa vie personnelle avec la sociologue Catherine Lejal, l'avocat Patrick Thiébart et le journaliste Quentin Périnel.
Déconnexion, pas du tout. Non, moi, je regarde mes mails jusqu'à l'heure où je vais me coucher, donc minuit et demi, 1h du matin, voire plus encore le week-end.
C'est infaisable. D'après moi, on a tous maintenant des téléphones connectés, on est tous sur nos mails de boulot. En tout cas, moi, cadre, c'est clair que j'ai mes mails week-end, soir compris.
Non, c'est un engrenage. Après, bon, voilà, on commence à consulter un mail, deux mails, trois mails, on y répond. Puis après, c'est bon, on reprend le travail, quoi. Alors qu'on est plus censé y être.
Donc comment ne pas répondre, d'autant qu'on peut avoir des représailles derrière. Donc,
On ne s'arrête pas.
Oui, ça a certainement ralenti ma carrière, ça l'a même certainement stoppé un moment. C'était considéré comme ne pas s'impliquer dans son travail, ce qui est complètement faux.
Quand on est en vacances, ça bouffe, oui.
Et souvent, on se fait le reproche, mon mari et moi, hein, régulièrement, de répondre à nos mails quand on est en train de dîner, quand les petits sont couchés, le week-end. Mais on le fait quand même tous, quoi.
J'étais dans le sud de l'Afrique et du coup, j'ai dû répondre à mon patron, oui, qui avait besoin de moi. J'ai éteint mon téléphone après.
Propos recueillis cette semaine dans les rues de Paris. Commentaire autour de la table. Un interviewé parle d'engrenage. Un autre nous dit que la déconnexion est infaisable. Patrick Thiébard.
Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les salariés, en fait, n'ont pas le choix. Parce que vous comprenez le droit à la déconnexion. On a tous un petit bouton off hein, sur son téléphone. Mais si personne n'utilise ce bouton off, c'est parce qu'on se sent obligé. Donc pour moi, en fait, le droit à la déconnexion, il doit d'abord venir d'en haut. C'est au niveau des cadres, des managers, aussi d'insuffler les bonnes politiques. Et ces cadres mêmes doivent être formés et sensibilisés par la direction.
Catherine Lejal, commentaire sur ce qu'on vient d'entendre.
Alors, on voit très bien qu'on n'est pas dans l'efficacité du travail, on est dans montrer qu'on est quelqu'un d'impliqué, qu'on est motivé, qu'on est enthousiaste. D'où aussi ces mails que les gens envoient à n'importe quelle heure pour montrer qu'ils travaillent.
Quant à Périnel.
Je trouve très amusant dans votre micro-trottoir, il y a une personne qui parle de ses vacances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la valeur déconnexion, elle est associée aux vacances. Quelqu'un qui part en vacances, on lui dit surtout déconnecte bien. Ce qui prouve bien que les vacances, c'est fait pour déconnecter. Mais néanmoins, est-ce que quelqu'un doit s'obliger à déconnecter s'il n'en a pas envie? Est-ce que c'est pas rassurant, même en vacances, de consulter ses mails une fois le matin, une fois le soir, histoire d'avoir l'esprit tranquille? Je pense que c'est aussi à des raisonnements comme ça qu'on doit arriver.
Maître Thiébard.
Burnout, harcèlement moral, ce sont autant effectivement de problèmes qui surviennent parce que n'oubliez pas que cette loi, elle est aussi faite pour préserver la santé des salariés et que ces cas-là sont beaucoup plus fréquents qu'ils n'y paraissent. Donc pour moi, la protection de la santé doit quand même primer.
Rappelons que le burn-out, c'est ce syndrome d'épuisement professionnel, cet incendie hein, qui vous consume de l'intérieur et qui vous fait perdre la foi dans ce que vous faites.
C'est tout à fait ça, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on pourrait le penser.
C'est vraiment la surchauffe de la machine, le terme, c'est burn-out, voilà, c'est un moment où on travaille trop. Là, on est surtout en train d'évoquer finalement le droit à la déconnexion hors des horaires de travail, mais il y a aussi pendant les horaires de travail, où en fait, on est dans une fragmentation d'activité. On répond toutes les 3 minutes à des sollicitations, ce qui fait que les gens disent « j'ai des problèmes d'attention, j'ai des problèmes de concentration ». En fait, qu'on n'a pas normalement, mais qu'on a parce que on répond comme ça, on zappe. À la fin de la journée, l'impression d'une perte de sens de ce qu'on a fait, parce qu'on a répondu aux urgences et aux sollicitations de nos collègues, de nos tiers. Et donc, c'est le matin, arriver avec sa petite to-do list et dire, voilà, ça, c'est ma priorité, ça, c'est mon urgence, et je le fais.
Quant à Périnel.
Et vous avez raison de dire que les bons réflexes doivent venir d'en haut, parce que quelqu'un me racontait il n'y a pas longtemps qu'il a reçu un mail de son top management, donc N+, le 25 décembre, le jour de Noël. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer un mail à ses proches collègues le 25 décembre?
Mais ça l'a probablement rassuré, se dire, oh là, qu'est-ce que je dois être importante, puisqu'il me connaît, il pense à moi.
Probablement.
Bon, c'est d'où l'ambiguïté, en fait.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous appelez de Lyon, bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
Merci.
Alors vous êtes traductrice, c'est ça?
Oui, je suis traductrice juridique, oui.
Alors est-ce que vous arrivez à vous déconnecter?
Difficilement, depuis quelques mois. Parce que, comme j'expliquais, je me suis lancée à mon compte depuis novembre. En fait, avant, j'étais traductrice, mais salariée. Et donc, c'était très facile. 8h30, 17h30, j'étais à mon ordinateur, je rentre à la maison. Et là, bureau à la maison, et puis pas à la maison immense, donc joli coin bureau, mais dans le salon. et du coup, les enfants sont gardés, mais je me rends compte que les sphères vont se mélanger. Je passe de salarié à je gère tout, donc je peux pas m'empêcher de répondre à un mail qui arrive un peu tard. Les avocats, c'est en plus typique. Donc je peux pas prendre le risque de ne pas répondre, enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mes enfants, la maison, les traductions, c'est clair que je sens que tout se mélange. Et je sens que je tiens même plutôt bien malgré la charge de travail et la charge des deux bambins. Mais je me dis que peut-être que sur le long terme, ce sera peut-être un rythme tellement soutenu que Je ne sais pas ce que ça donnera. Enfin, je sais ce que ça donnera. Je vais tout faire pour que ça marche, mais ça va peut-être être un peu fatigant. Peut-être pas mal de mauvaises habitudes que je risque de prendre. Et je sens que je vais avoir du mal à tracer une ligne côté maison, côté boulot.
Catherine Lejal, vous avez beaucoup travaillé sur cette question-là.
Oui, avec les différences effectivement interculturelles où en France, on a vraiment cette exigence presque presse-bouton à la demande. Et on voit l'intérêt de cette loi qui va faire changer les mentalités, de dire est-ce qu'on est vraiment dans une immédiateté telle ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'exiger de chacun de nous finalement cette fatigue ?
Et Sophie parle de mélange des genres.
Oui,
mélange des deux sphères, privées et professionnelles.
Alors dans son cas, effectivement, quand on est son propre entrepreneur, tout appel entrant, tout message, ça peut être du business qui arrive. Donc aussi la possibilité de continuer à travailler et à être son propre chef.
Qu'est-ce que vous lui conseillez, Catherine Lejal ?
On peut espérer que la loi va faire changer un peu les mentalités, donc que les gens qui appellent...
Mais dans son cas, elle est freelance. Comment on peut l'aider concrètement Quentin Périnel?
Peut-être en s'imposant elle-même, parce qu'effectivement, si elle est à son compte, elle n'a pas la loi de la déconnexion. C'est un peu amusant, parce que si elle s'oblige à déconnecter, effectivement, elle se met de côté des business et des potentielles opportunités. Dans son cas, il faut effectivement le faire au cas par cas, elle-même, qu'elle se fixe des règles, peut-être pour harmoniser sa vie, sa journée, de dire à telle heure je fais ça, à telle autre heure je sais pas, c'est assez...
Et j'imagine que c'est une véritable discipline, Sophie, d'essayer de mettre en place une démarcation entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle.
Oui, c'est ça, parce qu'avant, quand je recevais la traduction, je la commençais, et puis bon, quand je l'arrêtais, je rentrais chez moi, et là, le soir, quand j'ai fini de m'occuper des enfants, tout ça, je sais qu'elle est en cours. Et des fois, je m'y remets un petit peu le soir, alors juste pour me rassurer moi, alors qu'avant, je disais à mon donneur d'ordre, je disais, il faudra tant de jours pour la faire. Là, je réponds la même chose, à peu près dans les mêmes délais. Et en fait, je sais que c'est à côté, je sais que je peux la continuer pour soit m'avancer, soit être sûre de bien respecter le délai. Et j'ai vraiment du mal le soir à ne pas rallumer mon ordinateur, alors que je suis pas du genre, je ne suis pas forcément hyper connectée.
Est-ce que vous ressentez une forme d'épuisement de passer sans cesse du mode professionnel au mode personnel dans le même lieu?
Oui, je me sens fatiguée. J'ai du mal à arrêter de faire quelque chose. C'est tellement prenant. Mes enfants sont petits. Mon activité vient de démarrer. C'est clair que j'ai l'impression de jamais m'arrêter. Mais je suis peut-être pas encore fatiguée parce que encore vraiment dans le... J'ai pas le droit pour mes enfants d'être malade, j'ai pas le droit pour mon boulot de m'arrêter alors que je le lance. Pour l'instant, c'est une espèce d'excitation, enfin pas d'excitation, je trouve pas le mot, mais quelque chose qui me fait tenir. J'ai peur qu'après, en espérant, en croisant les doigts, que mon activité sera sur les rails, que mes enfants auront un peu grandi, j'aurai mis en place peut-être plein de mauvaises habitudes.
Quant
mais
à Périnel.
Pour l'instant, j'ai du mal.
Et Sophie, vous travaillez de chez vous, c'est bien ça?
Ouais,
donc ça aussi, ça n'arrange rien, parce qu'effectivement, vous n'avez plus aucune frontière, frontière physique entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et c'est ça qui brouille absolument toutes les pistes, et qui fait qu'effectivement, vous êtes toute la journée chez vous, vous mélangez un peu tout, et vous savez plus trop, finalement, où sont les...
Merci beaucoup, Sophie, d'avoir appelé de Lyon. Je vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle activité de traductrice freelance. Bonjour Bruno, de Paris, comment allez-vous?
Bonjour tout le monde. Je vais bien, ça va, je vous remercie. Alors, je profite, je suis un petit peu hors sujet, mais je profite de la présence de votre spécialiste Légis pour poser des questions sur justement la non-connexion, parce que moi je ne travaille plus, je suis retraité, mais il se trouve que j'ai eu un accident et ça m'a permis de ne pas connaître Internet au travail, et donc je n'ai jamais été accroché à cette chose. Et je voudrais bien continuer de rester non connecté, mais je me demande jusqu'à quel point ça va être possible. Et j'ai entendu sur votre antenne, je veux dire une petite parenthèse pour vous citer un exemple, il y a bien d'autres trucs, bien d'autres exemples qu'on pourrait citer, mais parce que celui-là, vous avez annoncé que pour avoir la vignette qui permet de circuler dans Paris par rapport à la pollution, je ne sais quoi, la commander sur Internet. Alors, ça veut dire que les gens qui n'ont pas Internet ne peuvent pas avoir cette vignette, donc par conséquent ne pourront pas circuler en Paris parce que vous n'avez pas donné d'autres moyens de l'obtenir.
Merci Bruno pour votre question légèrement hors sujet, mais néanmoins intéressante. Catherine Lejal.
Les impôts, c'est pareil, bientôt il faudra... Donc on est sur plutôt la question de l'hyperconnexion. Et effectivement, les dérapages, et là, sur la fracture numérique, où effectivement, il s'agit d'aider les gens à répondre.
Même si c'est vrai qu'on a tendance à oublier que certaines personnes, comme Bruno, sont déconnectées tout le temps, pour le coup, parce qu'ils n'ont jamais rencontré la connexion.
Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir appelé depuis Paris. Alors, Maître Patrick Thiébart, avec la nouvelle loi qui pose un droit à la déconnexion dans les entreprises de plus de 50 salariés, comment ça se passe si je termine mon service à 18h et qu'à 21h, mon patron m'envoie un mail où apparaît la mention « urgent ». C'est une faute professionnelle si je ne réponds pas à ce courrier électronique et que c'est réellement urgent ?
Non, ça ne sera pas une faute professionnelle parce que ça, Ali, la jurisprudence, la Cour de cassation, a déjà jugé en ce sens. Donc ça ne peut pas être une faute professionnelle. En revanche, et c'est un point que j'aimerais souligner ici devant vos auditeurs, la loi n'interdit pas d'envoyer des emails à 20h ou à 22h. La problématique, c'est la répétition. La problématique, c'est les risques, comme je le disais tout à l'heure, de burn-out, d'épuisement professionnel, pour reprendre le terme français, ou de harcèlement moral, entre autres choses. Tous ces syndromes, finalement. Donc, c'est ça qui est interdit, cette répétition. Mais vous ne serez pas sanctionné parce que vous avez répondu ou parce que vous avez envoyé un email un peu tard le soir.
Mais dans le micro-trottoir tout à l'heure, un interviewé disait qu'elle craignait des représailles si elle se déconnectait totalement.
Eh bien là, l'employeur, je le dis, sera totalement hors la loi. C'est-à-dire, l'employeur qui sanctionne de quelque façon que ce soit son salarié parce qu'il n'a pas répondu à un email est hors la loi. Et la salariée pourra obtenir gain de cause devant un conseil de prud'homme.
Alors, dans certains secteurs professionnels, il me semble qu'il est quasi impossible de couper ce cordon ombilical. Si vous coupez, vous passez pour quelqu'un qui ne s'implique pas quant à Périnel.
Bah oui, parce qu'effectivement, dans certains milieux, enfin, on va pas parler de nous, mais on est bien placé pour le savoir, parce que, enfin, on reçoit tout le temps des mails, et, enfin, moi le premier, je suis quelqu'un d'hyper connecté, mais d'autres métiers comme le monsieur qui est à ma droite, qui est avocat, lui aussi, il doit consulter à longueur de journée ses mails, le conseil, et toutes les, la banque d'affaires, enfin tous ces milieux où effectivement on fait des horaires à rallonge. Et
il n'y a pas que la banque d'affaires où on fait des horaires à rallonge. Quentin Périnel, Catherine Lejal.
Moi je suis face à la génération Y qui m'envoie mes étudiants pourtant des bacs plus 5 et des MBA, qui m'envoie une trentaine de mails tous les jours pour des questions qui sont dans le sujet et qui sont déjà en ligne, mais c'est une façon d'avoir la réponse plus facilement. Et là je réponds le soir, le week-end, donc je suis un mauvais exemple.
Maître Thiébart, quelles sont les sanctions prévues par la loi? Que risque un dirigeant qui ferme les yeux sur des salariés qui ne se déconnectent pas?
Bah donc, comme je le disais, n'est-ce pas, la loi, elle ne prévoit rien. En revanche, il y a quand même d'autres formes pour sanctionner l'employeur. Alors, je parlais tout à l'heure du harcèlement moral. Hein. Le harcèlement moral, sauf faire de ma part, je crois que c'est 30 000 euros d'amende. Hein. C'est 2 ans de prison, sauf faire de ma part également. C'est donc pénalisé. Sans compter, bien entendu, le salarié qui va devant le conseil de prud'homme et qui obtiendra des dommages et des intérêts.
Mais Maître Thiébart, il y a quand même un gap à franchir entre le patron qui a tendance à vous envoyer un peu trop de mails et de SMS professionnels quand vous êtes tranquillement chez vous, et le véritable patron qui vous harcèle sans arrêt, qui vous mitraille de mails, de SMS.
Et encore une fois, c'est pas que je vais à tout prix être ici le grand défenseur de cette loi, mais c'est la raison pour laquelle la loi... justement, ne veut pas faire rentrer tout le monde dans le même moule, voilà. Et qu'elle n'est pas allée trop loin. C'est donc effectivement à chaque entreprise de faire le nécessaire. C'est évident que l'employeur qui use et abuse des courriers électroniques devra être sanctionné.
Question, est-ce qu'on peut opposer ce droit à la déconnexion à ses collègues de bureau? Quant à Périnel,
est-ce qu'on peut...
Est-ce qu'on peut faire en sorte que, bah voilà, on demande à ses collègues de nous envoyer beaucoup moins de mails ou de SMS? Maître Thiébart.
Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, on est souvent dans une sorte de surenchère, n'est-ce pas? Grosso modo, 20% des salariés d'entreprise envoient 80% des emails. Bon, donc, vous avez ce que j'appelle des emailers compulsifs. Ça peut être votre supérieur hiérarchique, mais ça peut être aussi un collègue. Tout à fait. Et du coup, c'est lui qui va fixer le « là », finalement. Il va falloir se mettre à la hauteur. Donc c'est ces gens-là qu'il faut identifier.
Et d'ailleurs, l'usage du mail est si important que là aujourd'hui, les personnes, on a conçu les open space, donc des grands espaces ouverts pour travailler et améliorer la communication plus facilement. Et qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à reproduire des réflexes, à envoyer des mails à des personnes qui sont à 3 mètres de nous, à 5 bureaux. Est-ce que c'est correct?
Quant à Périnel, vous posez la question de la politesse et de la bienséance.
Absolument, parce que effectivement, des collaborateurs, des collègues tout le temps connectés, eh bien, vous en croisez tous les jours. Là, ici, à la maison de l'ordre.
Du
tu penses peut-être quelqu'un, vous savez, ce collègue qui traverse le couloir, les yeux sur son téléphone, vous lui dites bonjour, il lève à peine les yeux. Ça, les comportements, ça change les comportements, effectivement. On a son téléphone mobile dans la main et on ne se soucie plus du reste. Dans l'ascenseur, c'est pareil, l'ascenseur. Regardez les gens, personne ne se regarde, personne ne se salue. C'est abominable.
Catherine Legel, une mesure simple, plutôt que d'envoyer un mail à son collègue du dessus, il vaut peut-être mieux aller le voir.
Alors justement, on a des salariés qui aujourd'hui demandent, face à l'open space, demandent des salles de travail, autre chose que la machine à café, des espaces. Je sais que dans des entreprises comme Thales, on a des bureaux ou SFR qui peuvent réserver, qui sont pris d'assaut pour travailler sur un dossier avec des clients. On a d'autres entreprises qui ont instauré une après-midi par mois de non-mail pour aller dialoguer avec ses collègues. Parce que très souvent, en fait, on a le collègue qui a une idée, hop, il envoie un SMS, une demi-heure après, il a une autre idée. Donc, il faut l'avoir repéré et se dire, j'attends la fin de la journée et je mettrai tous les mails bout à bout parce que les choses auront sans doute évolué entre-temps.
Et il est bien joli de se déconnecter une fois que l'on a quitté le travail, ne plus répondre à son patron, à ses collègues, à ses contacts extérieurs. Mais le lendemain matin, on se retrouve quand même avec 250 mails auxquels il faut bien répondre, Maître Thibard.
C'est pour ça que la fameuse théorie « il n'y a qu'à couper le serveur » ne marche pas, puisque par définition, les mails sont toujours là. Et quand vous reconnectez le serveur, eh bien, les mails vous arrivent. Donc en réalité, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation. Vous savez, moi, ce que je recommande aux entreprises, c'est d'abord, finalement, de faire un bilan volumétrique des emails envoyés. Vous savez qu'on a ces informations. Vous devez donc être capable d'identifier dans chaque entreprise les départements qui posent problème, grâce à votre bilan volumétrique d'emails. Et là, vous allez pouvoir traiter la difficulté. Et le « il n'y a qu'à couper le serveur » ne me plaît pas, parce que là, je pénalise l'ensemble de l'entreprise.
Allez, nous attendons vos questions et réactions au 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebin.
All I need is 5 minutes, if you can see the signs. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. 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 Stop the ignition. All I need is your look. Hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources. And then the kisses, following courses, like a butterfly effect. One hit of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love don't spend. All I need is 5 minutes.
Five minutes. 5 minutes.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h41 et mes invités me regardent drôlement, c'est mon accent, hein, c'est ça, en anglais qui vous fait rire, je le sens. Et on se demande comment se déconnecter du boulot dans sa vie personnelle avec la sociologue Catherine Lejal, l'avocat Patrick Thiébard et le journaliste Quentin Périnel.
Un morceau nostalgique. Lire mes mails.
Mail de Super Deal. Des nouveautés à prix étonnant pour...
Ça c'est...
Mail de Amy. Salut Théodore, Louman invite des amis à la campagne ce week-end. On y va ensemble ? Tu me manques. Enfin, pas le Théodore grincheux. Plutôt le rigolo d'avant. Tu devrais le ressortir. Réponds-moi. Bise, Amy.
Répondre plus tard.
Météo du Los Angeles Times. La semaine prochaine, temps couvert sur tout...
Effacé.
Pas d'autre mail.
Suivant.
La fusion sino-indienne sera validée par l'autorité internationale...
Suivant.
Nouvel échec des négociations sur les échanges commerciaux.
Suivant.
Enceinte, la très sexy vedette de soap opéra Kimberly Ashford se met à nu.
Un extrait du film Heure de Spike Jonze en 2013 avec Joaquin Phoenix. Il est difficile de hiérarchiser ses priorités face à l'avalanche d'informations qui nous accable, Catherine Lejal.
Tout à fait, parce que c'est très facile de s'installer devant son écran le matin et de répondre à tout ce qui arrive et d'oublier ses priorités et ses urgences à soi, donc de les avoir marquées et sur un post-it en arrivant, donc de les identifier parce qu'après on est content de les avoir fait et s'autoriser aussi parfois à travailler ne serait-ce que 10 minutes en immersion et répondre ensuite sur une plage de 10 minutes à ce qui vient d'arriver. Je crois que ce qu'on a oublié, c'est que quand le téléphone portable est arrivé, on pensait que l'appel allait vraiment être du harcèlement. Et en fait, c'est le mail. Parce que l'appel téléphonique, en fait, il fait perdre du temps aussi à celui qui vous appelle. Donc, à un moment, on ne vous appelle pas. Alors qu'avec un mail, on peut faire perdre beaucoup de temps à celui qui le reçoit.
C'est au salarié de se prendre en main, de se discipliner pour décider s'il est nécessaire ou non de consulter sa messagerie, ses SMS professionnels. Et dans ce cas, comment ne pas culpabiliser Quentin Périnel ? Si on prend votre propre cas.
Mon propre cas. Alors moi, en fait, je consulte énormément mes mails, tout le temps, en fait, jusqu'à ce que je me couche. En revanche, j'en envoie très peu. Je consulte, mais j'en envoie très peu. Donc c'est une logique que je me suis déjà appliquée à moi-même. Je sais que je vais potentiellement embêter quelqu'un. Par exemple, le week-end, je n'écris pas à mes collègues. Après 20h, je n'écris pas non plus à mes collègues, à part si je sais qu'ils sont au travail.
Catherine Lejal.
Ouais, moi, j'en envoie pas forcément beaucoup. C'est le week-end, je devrais me mettre en mode brouillon en fait. C'est parce qu'il y a une idée de moi, ça me vide la tête, je l'ai envoyé et je me suis libérée de quelque chose. C'est sur ma to-do list et c'est parti.
Mais comment ne pas culpabiliser si on se déconnecte ?
Parce que j'attends pas forcément une réponse. C'est de dire voilà, c'est parti, c'est envoyé, je l'ai fait. Donc je vais utiliser plutôt le mode brouillon maintenant et envoyer le lundi matin. Parce que c'est... Et parfois je rajoute bien à ton retour, enfin voilà, pour bien... Bien rajouter cette petite chose.
Question pour vous, Maître Thiébard. Quand votre responsable vous envoie un message de vœux le dimanche 1er à 22h, votre PDG à 2h30 le mardi, qu'un robot vous envoie un message toutes les 3h et donc la nuit pour que vous validiez votre compte-rendu d'activité mensuelle, que peut faire le salarié ?
Le salarié, évidemment, là, il a le droit de se plaindre. Il peut se plaindre, bien évidemment, et ça serait déjà mon premier conseil, déjà sa hiérarchie. Parce que... Il faut d'abord commencer par la voie interne, si je puis dire.
Et Marc, dans ce mail, nous dit « Les représentants du personnel demandent l'arrêt de ces pratiques, mais en vain. »
Oui, mais alors, bon, justement, on en revient à la loi. Hein. La loi vous oblige, en fait, à ouvrir des négociations dans le cadre, finalement, de, je dirais, l'égalité professionnelle femmes-hommes et qualité de vie au travail. Ça, c'est la loi Rebsamen. C'est dans ce cadre-là, donc, là, voyez-vous, les syndicales Ali ont une opportunité, c'est-à-dire mettre le sujet sur la table en disant « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand est-ce qu'on discute ensemble des modalités du droit à la déconnexion ? Parce que plusieurs de nos collègues se plaignent d'être constamment harcelés de recevoir des tonnes de courriers électroniques. »
Alors, il est difficile de se désintoxiquer, de se déconnecter avec cette peur de rater quelque chose. Ça peut devenir une véritable obsession, Catherine Lejal.
Il y a une nouvelle, une nouvelle addiction qui s'appelle la FOMO, la Fear of Missing Out.
Ça veut dire quoi en français ?
C'est la peur de rater quelque
voilà.
chose. Et cette FOMO touche encore plus particulièrement la jeune génération Y et Z, qui dans leur vie privée, en fait, maintenant resterait à peu près 97 minutes à une soirée, en se disant, mais il y a mieux, je suis en train de rater une autre soirée, et et on passe de soirée en soirée. Parce qu'il y a l'effet réseaux sociaux qui envoie des super photos et où on a un embellissement du réel.
Quentin Pernel, vous qui faites partie de cette génération Y.
Ouais, le moment clé, justement, de cette peur de manquer quelque chose, c'est quand on part en vacances. Et d'ailleurs, quand on part en vacances, déconnecter, c'est devenu quasiment obligatoire. C'est quasiment un souhait qu'on fait à un collègue ou à un ami qui part en vacances. Surtout, déconnecte bien. On lui dit souvent, ne check pas tes mails. Voilà, c'est d'ailleurs l'employeur, parfois, qui dit ça à son collaborateur. Pars en vacances tranquille et surtout, oublie-nous. Ne check pas tes mails. Bien sûr. Bien sûr.
Bonjour Guillaume, vous appelez de Ruelle Malmaison.
Oui, bonjour.
Bienvenue
bonjour
dans l'émission. Merci. Bienvenue dans l'émission. Alors, vous avez une amie freelance et elle a trouvé une solution pour se déconnecter.
Alors, c'est une solution. C'est pas pour se déconnecter, mais c'est votre auditrice précédente qui disait j'ai du mal à me dire que je suis peut-être en train de rater du business. Donc, cette amie qui s'appelle Sophie, si jamais elle écoute, je l'embrasse. Elle, en bas de ses mails, elle met voici mon mode de communication. En dessous de sa signature, elle dit voilà. Je préfère les mails aux SMS, et les mails, je m'engage à y répondre dans un délai de 24 heures, et elle donne quelles sont les règles qui lui conviennent à elle, et elle termine en disant, mais si ça vous va pas, parlons-en. Et donc elle est dans le préventif, et pas dans le curatif.
Bon, mais c'est pas mal, on va essayer de l'appliquer. Merci Guillaume de nous avoir appelé de Ruelle Malmaison. Doit-on généraliser les formations en interne pour apprendre à gérer les outils numériques, Catherine Lejalle?
Le mail, effectivement, a besoin d'une charte de bon usage, parce que parfois, en toute bonne conscience, on ne sait pas qui mettre en copie. On dit, pour éviter de froisser tel collègue, je vais aussi le mettre en copie. Et finalement, on a une multiplication des gens en copie. Donc, il faut plusieurs règles qui doivent venir de la direction, c'est-à-dire, voilà la politique de copie. Aussi, une politique claire, est-ce que c'est un mail pour action ou pour information? Ça, c'est pas forcément toujours très clair. Et puis, aussi limiter ces mails parapluies, ces mails où la trace de l'écrit est importante, que les gens envoient pour se protéger.
On veut laisser des traces écrites.
Voilà, en disant, je suis peut-être en train de prendre, je veux pas le risque. Donc, je les informe, s'il faut pas faire, on préviendra. Et la dernière chose, c'est ces mails où il y a du reply all, où on dit, répondre à tout le monde. C'est j'organise une réunion et tout le monde dit, j'ai bien noté, merci, qui servent à rien, juste à faire montrer que vous êtes connecté. Voilà, donc c'est les interdire.
Quant à Périnel,
effectivement, répondre à tous, c'est d'autant plus dramatique que généralement on met pas un seul collègue dans la boucle parce qu'il y a une boucle elle-même qui contient plusieurs collègues. Donc il y a une vingtaine de personnes d'emblée qui sont réunies dans ces mails et c'est effectivement ça qui donne toute cette multiplication d'emails à longueur de journée.
Ouais. Maître Thiébart.
41-21-1, c'est l'article du Code du travail qui oblige l'employeur à former. Alors c'est pas un article qui uniquement dédié, bien évidemment, au droit des connexions. Mais vous en parliez, Ali, de la formation tout à l'heure, et c'est pas une option, c'est une obligation. C'est-à-dire que j'ai une charte, j'ai un accord, mais je dois derrière le nourrir. Je dois créer de la formation, à tous les étages, de l'immeuble de mon entreprise, si je puis dire. Et ça, si vous le faites pas, vous serez sanctionné par les juges.
Alors vous le disiez tout à l'heure, Maître Thiébart, plutôt que de s'en prendre à une société de l'hyperconnexion, il vaut mieux s'intéresser aux dirigeants, aux managers qui imposent une pression énorme à leurs collaborateurs.
Oui, c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est que les managers, qui sont rarement, en tout cas pour l'instant encore, génération Y et a fortiori génération Z, ne sont pas des gens qui sont nés, je dirais, avec ces outils. Donc, on reste sur ce qu'on appelle, c'est un barbare, un peu la culture présentéiste. J'ai le salarié sous les yeux, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais il est là. Donc, ça me va, je suis tranquillisé. Il n'est plus là parce que c'est un salarié nomade, parce qu'il est en télétravail, et là, ça crée de l'inquiétude. C'est cette catégorie-là de salariés qu'il faut vraiment sensibiliser aujourd'hui.
Catherine Lejalle, qu'est-ce qui pousse les salariés, au fond, à cet enchaînement numérique? C'est quoi? C'est la peur du licenciement, la compétition, la course
c'est
à la prime?
Le sentiment d'exister et d'être important, parce que des gens, on l'a tous, hein, on garde son portable et hop, on a une petite notification, on a un mail, on a l'impression d'exister. Et c'est un moment de se rassurer et de se dire, parce que le management nous y invite, en disant, autorisez-vous à travailler en immersion, à ne pas répondre pendant une demi-heure, parce que vous allez travailler mieux. Ne lisez pas vos mails le soir, parce que vous allez être préoccupé, et finalement, le lendemain matin, vous allez arriver moins bien restauré, et je tirerai de vous de moins bonnes choses. Donc c'est tout ce changement d'attitude et l'utilisation aussi d'outils collaboratifs, des vrais outils, les doodles pour fixer des rendez-vous.
Les doodles.
Des outils en fait où il y a un lien et les gens répondent sur des dates, des partages du cloud avec des partages des Dropbox ou Drive hein, avec des partages de documents et pas des pièces jointes qui circulent et qu'on multiplie et à la fin on sait plus où est la pièce jointe. Donc il y a des vrais outils aussi collaboratifs.
Pour se désintoxiquer, pour se déconnecter.
Non, mais qui permettent, au lieu d'avoir une multiplication de mails, il y a un mail et tout le monde y répond.
Premier geste simple à mettre en œuvre dès ce soir pour se déconnecter de façon très simple.
Alors, c'est justement plus sur les temps de travail. C'est de travailler mieux quand on est présent, en sachant quelles sont ses priorités, ses urgences, et en s'autorisant aussi à travailler en immersion. Mais ne serait-ce que 10 minutes, c'est-à-dire ne pas zapper, parce qu'à la fin, on est en burn-out, on est en fragmentation d'activité, et on a des problèmes d'attention, de concentration. Et finalement, on donnera une moins bonne réponse à ses collègues, à ses partenaires d'affaires, et l'entreprise sera également pénalisée in fine.
Maître Thiéba.
Deux petits points à lire rapidement. Tout d'abord, on passe 30% de notre temps quotidien à checker, à vérifier nos emails. Comment voulez-vous être créatif et productif si vous êtes... je dirais constamment en train de regarder vos emails. Deuxième remarque que je voulais faire, et si on voyait nos entretiens d'évaluation annuels, et si finalement on jugeait la qualité des gens, et notamment des managers, à leur aptitude à bien communiquer et à faire un bon usage des outils numériques.
Quant à Périnel,
absolument, en fait,
c'est pour conclure,
faire preuve de bon sens en fait. Penser aux autres et se faire la réflexion à un moment d'envoyer un mail. Est-ce que je dois vraiment l'envoyer à toutes ces personnes? Est-ce que c'est indispensable? Faire preuve de bon sens, le bon sens. Je pense que c'est la valeur qui doit primer.
Merci beaucoup Catherine Lejal, merci Patrick Thiébar et merci également Quentin Périnel. Toutes les références bibliographiques sont disponibles sur franceinter.fr à la page Grand Bien Vous Fasse. À suivre l'intervention de Sabrina Nadjar de Femme Actuelle qui s'intéresse à l'infidélité féminine.
L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A.
Serge Gainsbourg. Rebonjour Sabrina Nadjar.
Rebonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femme Actuelle. Alors, dans Femme Actuelle ce matin, pas plutôt de cette semaine, un sujet sensible, l'infidélité, et plus particulièrement l'infidélité au féminin.
Exactement.
Vous publiez, je le précise, une enquête d'opinion IFOP pour un site de rencontres extra-conjugales réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 3406 femmes françaises âgées de 18 ans et plus.
Exactement.
Alors, que nous apprend ce sondage?
Alors, écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque qu'un tiers des Françaises, plus précisément 33%, ont déjà eu un rapport sexuel avec un autre partenaire que leur conjoint. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en 50 ans, le chiffre a plus que triplé. Il n'était que de 10% en 1970. Alors,
Pourquoi ? Ben, d'abord parce qu'il y a la banalisation de la rencontre, notamment sur Internet, et son anonymat qui explique cette proportion. Mais pas seulement. Selon le sociologue François de Singly, la majorité des gens gardent le modèle du couple exclusif, mais on refuse de plus en plus les compromis. Et quand ça ne va plus, Ali, on se quitte. Alors cela passe souvent par la rencontre d'un autre partenaire, donc par une infidélité passagère qui est marqueur de cette rupture.
Alors près de la moitié des femmes ont déjà testé l'infidélité verbale. C'est quoi ça ?
Oui, bah écoutez, pour les femmes qui refusent d'avoir des rapports sexuels, il existe d'autres formes d'infidélité. Les jeux de séduction à 45%, les envois de messages, SMS ou chat ambigus à 25% ou carrément plus explicite via webcam pour 13%. Mais alors, est-ce que pianoter sur son portable, c'est tromper ? Eh bien écoutez, pour François Cross de l'IFOP, les femmes cherchent surtout à savoir si elles plaisent, à booster leur ego. Mais échanger des SMS ou des mails mobilise aussi chez elles un engagement affectif et émotionnel qui les fait in fine se sentir infidèles.
Alors on apprend dans ce sondage, dans le sondage que vous publiez, que 23% des femmes en couple se laisseraient volontiers tenter.
Oui, mais alors à une condition cependant, être certaine de ne pas se laisser prendre. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'elles sont aussi nombreuses à moins de 30 ans qu'à plus de 60 ans à être finalement volontaires pour l'infidélité. Et les plus disposées à l'aide sont celles qui ont eu le plus de partenaires dans leur vie.
Quant à Périnelle, je rappelle que sur le site lefigaro.fr, vous animez le bureologue. Le bureau, ça reste un lieu de l'infidélité
Ça reste un lieu où les gens se rencontrent et où effectivement, il peut y avoir des rencontres. Après, les infidélités, il doit y en avoir aussi, j'imagine. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, le bureau, c'était l'endroit effectivement où les couples se formaient. Maintenant, c'est davantage sur Internet que dans le monde du travail, comme on le disait tout à l'heure.
Merci beaucoup, Sabrina Nadjar, de Femme Actuelle. Cette enquête d'opinion est à lire dans votre hebdo cette semaine. À la technique ce matin, il y avait Patrick Henry et Pauline Laverdure. La programmation musicale était signée Muriel Pérez. Demain, on s'intéresse aux vêtements chez les ados comme vecteur de singularité, de conformisme. À suivre Nagui et sa bande originale.